Chapitre 3. Voyage d'un auteur. Le lendemain matin, Camilla, triste et peu disposée à paraître, fut la dernière qui descendit au déjeuner. Edgar s'aperçut que sa peine n'avait point cessé, quoiqu'elle la cachât par un sourire affecté aux confiances rugues. Alors le délai de la semaine lui parut trop long. Un domestique entra et lui annonça que la voiture était prête. Elle devint rouge. Mais personne ne dit mot et le domestique se retira. Edgar s'apprêtait à demander quels étaient les projets de la matinée lorsque Miss Margland prit la parole. « Miss Camilla, dit-elle, comme les chevaux doivent aller et revenir, vous ferez bien de ne les point faire attendre. » Son teint s'anima encore plus. Elle était prête à déclarer qu'elle n'avait point demandé les chevaux lorsque Sir Hugh lui dit « Je pense, ma chère, que vous ferez bien de prendre Eugénia avec vous pour causer, si vous voulez dire quelque chose le long de la route. Les jeunes personnes n'aiment pas beaucoup à laisser leurs langues oisives pendant qu'elles sont ensemble, chose toute naturelle puisqu'elles ont si peu à quoi penser. » Eugénia répondit qu'elle était toute prête. Camilla n'eut plus le courage de résister, mais sentant que sa douleur devenait insupportable, elle sortit de la chambre sans annoncer si elle reviendrait ou non. Eugénia la suivit. Edgar, fort étonné, dit qu'il avait oublié de commander son cheval pour la promenade de cette matinée et s'empressa d'aller le faire, espérant être prêt pour accompagner les deux sœurs à leur voiture. Eugénia retrouva tout en larmes sa pauvre sœur, qui n'avait songé à rien moins qu'à se préparer pour un voyage qu'elle détestait à présent. « Je ne saurais parler, répondit Camilla. S'il n'y a pas de ressources contre cette persécution, si je dois me faire haïr pour leur satisfaction, qu'on me laisse au moins partir tout de suite et qu'on m'épargne la vue de celui que j'offense avec tant d'ingratitude. » Alors elle descendit précipitamment, mais trouvant Edgar qui l'attendait, elle remonta plus rapidement encore. Et dans une agitation douloureuse, dont elle ne songeait point à se rendre compte, elle se précipita sur une chaise en disant « Si Miss Margland ne fait pas sortir Edgar, l'univers entier ne me ferait pas l'outrager ainsi en sa présence. » « Ma chère Camilla, reprit Eugénia surprise, mais avec le ton du plus vif intérêt, « si cette visite vous est si douloureuse, ne la faites point. » « Oh non, la cruelle Miss Margland va m'accuser de n'être restée que pour suivre le conseil d'Edgar. » Elle s'arrêta. L'air d'Eugénia lui disait « N'est-ce pas là votre motif ?» Eugénia descendit. « Hélas ! S'écria Camilla, dans quel malheur cette cruelle Miss Margland va-t-elle me précipiter ? Maintenant, Eugénia elle-même paraît me soupçonner. Bientôt, mon oncle en fera de même. » Et je ne puis les convaincre de mon innocence qu'en me conduisant avec Edgar comme un monstre. » Alors elle entendit Miss Margland qui montait. Au bruit de sa marche, la crainte de ses reproches ou de ses avis absorba tout autre sentiment. Camilla tressaillit de tout son corps, et courant précipitamment, elle s'éloigna d'elle en proférant le seul mot « bonjour ». Edgar était toujours à la porte. Il se présenta pour offrir la main à Camilla. « Je vous prie, prenez soin d'Eugénia !» lui dit-elle en passant brusquement devant lui. Et sans aucune aide, elle s'élança dans la chaise. Edgar obéit, mais quand les deux sœurs furent assises, « Où voulez-vous, dit-il, que le postillon vous conduise ?» Camilla s'occupait à lever le store, qu'elle laissa retomber plus de 20 fois en une minute. Elle feignit de ne point l'entendre. Mais Eugénia répondit « À Grove, chez Mistress Arlberry. » Le postillon avait déjà reçu les ordres de Miss Margland. Il partit, laissant Edgar muet de surprise et de douleur. Miss Margland était derrière lui. Elle crut ce moment propice pour attaquer Camilla dans son cœur. « Vous voyez, lui dit-elle, Miss Camilla se décide à sortir en dépit de toutes vos précautions. » Elle aurait bien voulu que vous n'eussiez pas été témoin de ce nouveau caprice. Comment, Miss Camilla veut-elle? Oh, elle ne veut rien 2 minutes de suite. Miss Lindemer seule est toujours la même, toujours bonne, toujours aimable. Et Miss, il allait dire Camilla, mais se reprenant, il ajouta, Miss Eugénia, du moins, n'est-elle pas toujours égale, toujours raisonnable ?
Elle vaut certainement mieux que Miss Camilla, mais d'elles trois, une seule a de la constance et une véritable douceur, c'est Miss Lindmer. Miss Camilla s'irrite à la plus légère contradiction. Vous lui avez conseillé, de la manière la plus amicale, de ne point courir après une nouvelle connaissance qui ne lui convenait point. Eh bien, elle a pris une humeur extrême, elle s'est emportée contre elle-même et contre tout le monde. Vous avez été seule acceptée. Camilla craint que vous ne la réprimandiez, car c'est la chose qu'elle hait le plus.
Edgar connaissait le naturel morose de Miss Margland. Il crut qu'elle était injuste. Mais il connaissait aussi son attention à observer, et peut-être avait-elle raison. Camilla avait été très agitée, elle avait pleuré, elle n'avait pris aucun repos. Était-ce pour une cause aussi légère, aussi méprisable ? Il voulait la suivre à cheval, mais le faire sans y être autorisé décelait en lui trop d'inquiétude. Il résolut de ne point songer à s'occuper de ce que le docteur Marchmont lui avait conseillé, pendant qu'il existerait un nuage sur les dispositions de Camilla. Car, quelle que pût être la méchanceté de Miss Margland, toujours était-il vrai que Camilla manquait à sa promesse, à cette promesse dont Edgar avait été si flatté, et cette infraction demandait au moins une explication. Cependant, il sortit pour aller prendre, aux prises de Miss Lindenham, les informations qu'il avait promises. Les jeunes personnes étaient à peine hors du parc que Sir Hugh, se rappelant qu'il s'y était engagé vis-à-vis de M. et de Mme Tyrold, à ne jamais souffrir qu'Eugénia sortît sans être accompagnée par quelques cavaliers tant que Bellamy serait dans le pays, envoya demander précipitamment si Edgar voulait suivre la voiture. Mais Edgar était déjà loin. « Miséricorde, dit Sir Hugh, ces jeunes fous ne peuvent jamais aller à cheval sans courir le galop. » Alors il résolut de demander au docteur Horborn d'aller après sa pupille et de courir à côté de la voiture. Il ordonna qu'on sellât un cheval et il fut lui-même à l'appartement du docteur. Il lui demanda alors de vouloir bien sur le champ prendre ses bottes et ses éperons pour accompagner ses deux nièces chez Mistress Arsbury et prendre soin d'Eugénia. « Votre air, ajouta-t-il, me fait craindre que vous ne m'écoutiez pas beaucoup. J'en suis fâché, car si je ne m'exprime pas comme Virgile et Horace, ce n'est pas ma faute. » Ces instants se recommencèrent. « Un moment, je vous demande un seul moment, dit le docteur d'un ton d'humeur. Alors, couvrant ses yeux de la main gauche, il s'efforça de faire une revue de toutes ses idées avant de passer à un autre sujet. Réellement, docteur Horborn, reprit Sir Hugh un peu fâché, je crois en ami que vous pourriez faire cela dans un autre temps. Je ne puis maintenant dire que je sois très fâché de n'être pas moi-même un savant, car il est clair que tout ce qui n'est pas Homer ou quelqu'un comme lui n'est rien pour messieurs les savants. Il sortit alors de la chambre, dans le dessein d'envoyer un homme à cheval après la voiture pour faire revenir sur le champ ses deux nièces. Le docteur Horborn, qui, quoiqu'il fût nourri de la lecture des anciens, avec une intelligence paresseuse et nulle imagination, fut entièrement atterré par cette sortie. La chaîne de ses observations était absolument rompue. En vain s'efforça-t-il de sauver de l'oubli les fruits tardifs de ses lentes conceptions. Jugeant de leur valeur par sa peine, il crut que non seulement il avait fait une perte irréparable, mais encore que le monde entier avait droit de se plaindre de ce qu'il avait été interrompu. Toutefois, se rappelant que le coupable était son patron, il soupira tristement, appuyé sur ses papiers, et prit le parti d'aller rejoindre l'innocent ennemi de sa gloire pour se justifier devant lui. Sir Hugh, qui n'avait jamais eu deux minutes de colère dans le cours de sa vie, était plutôt prêt de faire lui-même des excuses que de résister à la plus légère avance du docteur, auquel il ne demanda que de se hâter parce que le cheval était à la porte. Mais quand le docteur Horborn eut compris son désir, il ne se sentit pas la force de sacrifier autant de temps. Il n'était pas monté à cheval depuis l'âge de 16 ans et il déclara au baronnet interdit qu'il ne risquerait point de se casser le cou en entreprenant un pareil voyage. Mais Sir Hugh, toujours prompt à trouver des expédients, lui dit que s'il voulait monter dans le carrosse, il arriverait encore chez Mistress Arsbury avant que la visite fût finie. Car, dit-il avec chaleur, le point important est de veiller à ce qu'Eugénia n'aille point ailleurs.
Le docteur Horborn, pâlissant à cette proposition inattendue, demeura stupéfait. « Enfin, voulez-vous, mon bon ami ?» Le docteur, après une longue pause, de l'air le plus accablé, répondit en soupirant. « Oui, monsieur, certainement, avec le plus grand plaisir. » Sir Hugh, qui prenait à la lettre tout ce qui lui semblait juste ou qu'il croyait partir d'un bon naturel, ordonna que les chevaux fussent mis au carrosse le plus promptement possible. Il sortit aussitôt et le docteur retourna dans sa chambre faire ses préparatifs. Toujours intimement persuadé que 2 heures de cette seule matinée lui auraient été plus utiles que les 2 années qui devaient la suivre, il obéit avec répugnance à l'appel qu'on lui fit de descendre. Mais il ne fut pas plus tôt dans le carrosse qu'il s'élança tout à coup dehors pendant que le domestique se préparait à fermer la portière et retourna faire un paquet de livres et de papiers à l'aide desquels il comptait faire une moisson de ses fleurs de rhétorique qui devaient établir sa future réputation. Le domestique, étonné, pensant que quelque chose avait fait peur au docteur, monta lui-même dans la voiture pour découvrir ce qui avait pu causer cette fuite quand il s'entendit appeler par Sir Hugh qui s'avançait pour donner ses derniers ordres. « Est-ce vous, Jacob ? Si le docteur Horborn croit vous envoyer à sa place auprès de ma nièce, c'est ce que je n'approuve pas. Ne le prenez pas mal, cependant. Un homme n'est pas né plutôt qu'un autre pour porter une livrée sur ses épaules, je le sais, et Dieu me garde de penser autrement. Mais l'on doit des égards à mes 2 petites filles. Il est surprenant que le docteur Horborn ne le sache pas aussi bien que moi. » Tout déconcerté, il prit le chemin du salon pour rêver à quelque autre mesure. « Je ne sais, répondit Jacques en le suivant, qui a passé à travers la tête du docteur. Mais comme j'allais fermer la portière, sans dire un mot, il sort brusquement et monte l'escalier. J'ai vu que quelque chose le tourmentait, mais je ne puis savoir ce que c'est. » Alors, se plaçant près de la porte et se donnant un air de sagacité, « Si j'osais, continua-t-il, je dirais qu'il y a quelques lubies dans la cervelle du docteur Horborn, produites par cette manie de toujours lire et de toujours écrire. Les servantes de la maison sont persuadées que sa tête est fêlée. Elles ont tort, Jacob. Dites-leur qu'elles doivent se garder de penser cela. Pour moi, reprit Jacques, je n'ai jamais rien vu qui lui ressemble. Il ne souffre pas qu'on essuie dans sa chambre une table, une chaise, quoiqu'elle soit couverte de toile d'araignée, parce que, dit-il, il perdrait trop de temps à remettre en ordre. Mais toutes les fois qu'il veut mettre, comme il dit, les choses en ordre, il fait justement le contraire. Car il arrange tout pêle-mêle. Les choses sont entassées les unes sur les autres, comme s'il avait dessein de ne plus s'y reconnaître. » Le baronnet répondit gravement que, si le docteur n'avait pas assez de tablettes pour ses livres, il ordonnerait qu'on en posât de nouvelles. « Ce n'est pas tout, poursuivit Jacques, et… »« Bien, bien, Jacob, n'en dites pas davantage sur ce sujet. » Mais allez faire mes compliments au docteur Horborn et demandez-lui la raison de son changement de dessein. J'entends, pourvu cependant que ce ne soit pas un secret. » Jacob revint au bout de 2 minutes, levant les yeux et les mains. « Pour le coup, s'écria-t-il, une autre fois vous me croirez. Il est pire que jamais, et je parierai qu'avant 1 semaine, sa tête est tournée. Pourquoi ? Pourquoi ? Dit Jacob, il vient avec une si grande quantité de livres, il en a tant mis dans ses poches, il en a tant sous ses bras qu'il est chargé comme un portefeuille. » En ce moment, Sir Hugh aperçut le docteur Horborn, portant des livres dans chaque main, les poches prêtes à rompre sous le poids, et marchant avec précaution. « Miséricorde, lui dit-il d'un air surpris, mon cher monsieur, où portez-vous tous ces livres ?» Le docteur Horborn, lui souhaitant le bonjour sans répondre à sa question, s'avança vers le carrosse, appela Jacob qui se tenait à quelque distance et lui recommanda de se presser et d'ouvrir la portière. Jacob obéit en jetant sur son maître un regard significatif qui disait « Vous voyez ?» Sir Hugh suivait le docteur et lui frappant doucement sur l'épaule « Encore une fois, mon ami, lui dit-il, pourquoi vous tant chargez de livres ?» C'est faire une grande perte de temps que de voyager sans livres, répondit le docteur en arrangeant tranquillement les siens dans le carrosse. Voyager, mon bon ami, vous appelez voyager, faire une course de 4 ou 5 milles? Si vous m'aviez connu, docteur, avant ma chute, je ne veux cependant faire aucune comparaison. Vous autres savants, vous n'êtes pas ordinairement homme de cheval. Mais si vous aviez à faire 100 000 au lieu de 4 ou 5, vous pourriez au plus parcourir un de ces volumes avec toute la peine possible, à moins que vous n'en sautassiez la moitié, ce que je crois que vous autres bonnes têtes laissez faire aux ignorants. Ce n'est pas pour les lire que j'ai pris tous ces livres, mais seulement pour y jeter les yeux. Il y en a beaucoup que je ne lirai de ma vie, mais j'ai besoin de tous. Le docteur Orborn, pressé de partir depuis qu'il avait ses livres, dit à Jacob d'ordonner au cocher de se hâter. Jacob regarda son maître, qui lui fit signe de monter sur sa jument, et le carrosse partit. Le baronnet, assez mal satisfait, fut s'asseoir dans la salle pour songer à ce qu'il avait entendu. Cet emballage d'un si grand nombre de livres, quand le docteur reconnaissait qu'il n'en lirait peut-être pas un seul, lui semblait fort extraordinaire. À la moindre apparence d'inquiétude, son premier désir était toujours de consulter son frère. Et si, dans ce moment, il n'eût pas été privé de ses deux voitures, il serait parti sur le champ pour Essrington. Il envoya du moins un exprès à M. Tyrold pour l'engager à venir le voir le plus tôt possible.